Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 331. Nous allons revenir sur une semaine d'actualité pas très chargée cette semaine. Avec moi aujourd'hui, Julo.
Salut.
Carole.
Coucou.
Et Romain.
Wesh.
On passe immédiatement au sommaire. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'abord de Batman Arkham Knight. Le dernier trailer est tombé. On va essayer de le décortiquer un petit peu, notamment tous ces vilains qui nous ont été montrés. Et puis, un ton qui a l'air un peu plus mature. Romain nous en parle tout à l'heure. Il y aura aussi, encore une fois avec Romain, White Knight, le jeu du studio qu'on croyait lyonnais, mais en fait, il est à Levallois. Enfin bref, c'est toute une histoire.
À Montreuil, par des
spécialistes d'Alone in the Dark. C'est un survival horror monochrome, on en parle évidemment encore une fois tout à l'heure avec Romain, toujours avec Romain.
Vous pouvez partir.
On peut partir. Et non, on va parler pour finir d'un autre survival horror, c'est Resident Evil Revelations 2 avec Carole cette fois, mais aussi Romain qui l'a torché aussi. Mais avant ça,
parce que moi aussi j'ai le droit de parler,
parce que Julo aussi a le droit de parler, nous allons d'abord commencer par la win de la semaine, mon petit Julo. Qu'est-ce qui a été bien cette semaine? J'ai l'impression que ça, c'est en lien avec un studio
qu'on aime bien,
en général.
Que beaucoup de gens aiment bien. C'est Telltale. Alors Telltale cette semaine a passé la seconde. On va le dire comme ça. Voilà, petit studio qui nous avait surpris avec Walking Dead et qui depuis a fait d'autres productions comme comment s'appelle-t-il
Il y a eu Game of Thrones, il y a eu Wolf Among Us.
Je pensais Wolf Among Us.
Telltale for Borderlands, dont on attend toujours l'épisode numéro 2. Bizarrement, ça fait quand même depuis novembre.
C'est un peu
habituel, et c'est justement parce que ça restait quand même un petit studio, même s'ils avaient déjà bien grandi. Mais là vraiment ils passent un high level avec Lionsgate, donc le producteur de cinéma américano-canadien, qui se joint donc qui se joint à la société.
Gros investissement de la part de Lionsgate, voilà. Avec
Lionsgate,
le CEO de Lionsgate,
d'ailleurs il faut rappeler au passage que Lionsgate c'est des gros films, des grosses séries. American Psycho, Twilight, Hunger Games. Au niveau série, c'est aussi Mad Men et Weeds, voilà, des séries à succès.
Twilight.
Voilà, et donc John Feltheimer a rejoint le conseil de direction, c'est le boss de Lionsgate. Et dans le même temps, au board également, a été appelé John Ricciello, qui est l'ancien boss d'Electronic Arts, qui était désormais chez Unity.
Ouais.
Et qui rejoint donc le board. Donc on sent vraiment que là, il y a des gros investissements. On fait venir des anciens gros patrons. Electronic Arts, ça, c'est pas n'importe qui.
Surtout, il y a une volonté qui a été affichée avec l'arrivée du patron de Lionsgate au bord de Telltale, voilà. De vouloir passer à quelque chose de plus transmédia. J'utilise
exactement
le terme transmédia.
Tout à fait. Alors en fait ils appellent ça le super show. Alors le super show, ça va être quoi? Il aura un vrai nom par la suite, on va dire. Pour l'instant c'est un projet qui va mélanger donc série télé et jeux vidéo, un peu comme a essayé de le faire Quantum Break. Quantum Break, c'est un petit peu moins ambitieux que ça l'était au départ. Là ça va rester vraiment très ambitieux. D'ailleurs le patron avait déclaré: notre objectif est de créer des produits qui ont une chance légitime de gagner à la fois un Golden Globe, et le prix du jeu de l'année. Et en gros ça va être des packs qui vont réunir jeux et séries qui pourront être achetés et joués dans un sens ou dans l'autre, et puis comme ça avec de l'épisodique, toujours évidemment parce que c'est la spécialité de Telltale et que c'est un format qu'ils ont vraiment propulsé avec Walking Dead. Donc chez Telltale ça va.
Et donc de la série interactive.
Ça va plus peser dans le game.
Ça me rappelle, il y avait une série je crois sur TF1 dans les années 80 ou 90 où on pouvait voter par Minitel ou par téléphone,
ouais, bien sûr,
pour connaître la suite. Et il y avait Captain Powers où on pouvait tirer sur l'écran aussi.
Exactement.
Sur
moi,
la j'ai l'impression que ça va
toujours
dépasser tout ça.
Jouer à ce truc.
C'est vrai. J'avais
joué,
mec.
C'est vrai.
Bah ouais. Pendant toi, t'avais l'Arcadia en réplique taillée.
Voilà, c'est ça.
Et que t'allais à la banque nager dans les bifetons. Bah moi, je jouais à Captain Powers.
Mais ce qui est marrant, c'est que ce rêve de série transmédia, moitié jeu vidéo, moitié série, ça fait des années que ça dure. Et j'ai pas l'impression que ça soit une vraie demande des joueurs. C'est pas un rêve qui est souvent repris par les joueurs, mais par contre, du côté de l'industrie, c'est vraiment quelque chose qu'ils souhaitent faire. Et je me rappelle de Défiance, par exemple, cette série sci-fi,
ouais.
Qui avait eu le droit à son MMO console en même temps, où, si je me souviens bien, ce qui se passait entre deux saisons dans le jeu vidéo pouvait avoir un impact sur le scénario de ce qui allait se passer dans la série. Alors après, je sais pas s'ils l'ont vraiment fait, mais ça montre que c'est quelque chose qui est vraiment souhaité du côté des créateurs de séries et de jeux vidéo depuis des années. Alors est-ce que Richie Tello va réussir à le faire? Avec
Lionsgate, lui il va arriver surtout pour donner un moteur, un vrai moteur, parce que Unity est quand même plutôt bien, et un vrai moteur pour Telltale ce serait pas un mal. Et oui,
parce qu'il y a des défauts récurrents dans toute leur production depuis le départ.
C'est une chie leur moteur.
Le principal problème que j'ai avec les jeux Telltale, moi, ce sont les bugs de sauvegarde.
Ouais, bah,
quand
tu arrives
à l'épisode 5 et que tu dois tout recommencer depuis le début parce que ta sauvegarde est vérolée ou qu'elle a tout simplement disparu.
C'est avec ça. Hein. Quoique ça s'est amélioré quand même avec Game of Thrones et Tales from Borderlands, mais c'est toujours pas ça. On va passer à quelque chose de moins joyeux. On va dire que c'est même la chiale de la semaine. Tellement c'est même pas un fail, on a envie de pleurer.
Bah pour les joueurs PC en tout cas.
Bah voilà, bah je suis un joueur PC. Voilà.
T'es un joueur PC et tu attends donc la sortie de GTA V avec impatience.
Absolument, parce que j'ai envie d'y jouer dans... Enfin, moins que Poufy, hein, évidemment, puisque Poufy, lui, va vouloir y jouer en 4K. mais moi, de mon côté, oui, je serais content d'y jouer sur PC. Ouais,
et bah tu vas devoir attendre.
Pourquoi?
Attendre encore plus que prévu, parce qu'il est repoussé. Il est repoussé au 14 avril. Il était prévu initialement pour le 24 mars.
Mais quelle tristesse.
Donc voilà, encore un petit report de plus. Sachant que cette mauvaise nouvelle est quand même accompagnée d'une bonne nouvelle, voilà.
Pas pour les joueurs PC. Pour
et là,
coup.
Ça fait plaisir à Carole, je crois, qui est une dingo de GTA Online, avec les braquages qui arrivent enfin.
Bah, ça lui rappelle sa jeunesse, tout bêtement, les braquages.
Bah,
hein.
Moi,
t'as été un peu la Bonnie and Clyde française.
Bah, j'ai grandi comme ça, tu sais, Marseille, les bandits, tout
exactement.
Ça.
Et donc,
un peu
dès le 10 mars, avant même l'arrivée du jeu sur PC, les joueurs console pourront jouer avec les braquages en ligne.
Ça va être top.
Ouais. Ah ouais, toi t'es un assidu du jeu en ligne en plus, qui t'es fait ton petit crew, qui arrête pas de jouer.
Voilà, on fait plein de bêtises. Alors là, avec les braquages, ça va être le top, quoi. Mais Romain est ravi aussi.
Bah,
on les attendait avec impatience.
Ben oui, c'était la fonctionnalité que tous les joueurs de GTA.
Ça avait été repoussé.
Bah c'est même à la base, ça devait arriver beaucoup plus
même
vite
avant,
que ça. Et là, c'est
sûr.
plus d'un an et demi, quasiment après. Enfin, même un an et demi après la sortie du jeu original sur PS3 et 360, ça fait quand même long pour l'arrivée d'un mode de jeu en ligne.
Tout à fait.
Bah après,
surtout que c'est attendu
GTA peut
longtemps.
Se le permettre parce que c'est une licence qui arrive à garder en haleine les joueurs pendant des années. Mais je sais pas si ça avait été une autre licence. On va dire qui
on
demande à ses joueurs d'attendre un an et demi avant d'avoir un mode, les gens sont passés à autre chose depuis bien longtemps. Mais
bien
bon,
sûr.
C'est la Rockstar Touch comme d'habitude.
C'est ça.
Eh bien, on va passer maintenant à la Romain Touch. Romain, le chiffre de la semaine, quel est-il?
Eh bien, mon cher Pumo, le chiffre de la semaine, c'est 125 millions. 125 millions de quoi, tu
vas
me demander?
Oui, exactement.
125 millions, je ne sais pas quelle caméra, 125 millions d'utilisateurs actifs. Sur Steam, le service de la plateforme de jeux en ligne de Valve, carton plein.
Ça commence à faire du monde.
Ça commence à faire bien,
c'est
ouais.
Plus que certains pays.
C'est plus que quel pays, par exemple?
La France.
Ah oui, c'est presque deux fois la France.
Le double de la France, ouais.
Oh là là, le double de la France joue sur Steam, achète des jeux sur Steam, va se ruiner son portefeuille dans toutes les soldes qu'ils font à peu près tous les deux jours.
C'est peut-être une exagération de ma part, mais je pense qu'on peut dire que Steam a sauvé le jeu sur PC.
Ah ouais?
Parce que à une époque pas trop lointaine, on se souvient que les éditeurs tiers avaient quand même de plus en plus de mal à sortir leurs jeux sur PC. Même si les joueurs PC, je sais que parce que j'ai déjà eu le droit à ce genre de remarques sur le forum, disent que c'est pas vrai, il y a quand même eu beaucoup et il y en a toujours beaucoup de piratage. Et le fait de sortir ces jeux sur Steam et parfois uniquement sur Steam quand il est question du PC, ça permet d'éviter en partie ou de limiter la casse en matière de piratage. Donc c'est pour ça que de plus en plus d'éditeurs sortent leurs jeux sur console et PC. On voit par exemple un exemple tout bête, Dragon Ball Xenoverse, qui est le premier jeu Dragon Ball à sortir officiellement sur PC. Donc ça montre déjà que les gens ont moins peur.
Après Dragon Ball Z Online.
Oui, mais
pas.
Ça, c'est autre chose, c'est un MMO coréen.
Eh ben oui, mais il y en a qui y ont joué. Nous non, mais il y en a qui y ont joué.
Mais
donc,
bref, un jeu occidental, on va dire, à sortir sur PC. Et donc voilà, Steam marche bien et tant mieux pour les joueurs PC.
Effectivement.
Enfin, qui ne sont pas gênés par le dématérialisé. Pour
voilà,
le coup.
Puis on n'oublie pas non plus Good Old Games, hein, qui sont dans le game aussi et qui sont très bons. On va passer maintenant au truc le plus palpitant qui soit dans ce podcast, à savoir les 5 articles les plus lus de la semaine. Vous êtes, je suis sûr, en fusion chez vous. Vous ne savez pas lesquels de quel article il s'agit. Eh bien...
Numéro 5.
Attends, maintenant, 3. Numéro 5. Le sondage. Que pensez-vous vraiment de The Order 1886? Effectivement,
bien,
on vous a demandé parce qu'il y a eu une petite polémique. J'ai pas tout...
Une toute petite.
Ouais, un petit truc. On en a un petit peu parlé sur Gameblog, pas beaucoup, hein, vraiment. Donc, vous avez été un petit paquet à répondre et la réponse, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. C'est plutôt entre bon et très bon en général.
C'est étonnant.
Donc, c'est assez surprenant pour un jeu qui a créé quand même une sacrée polémique et qui s'est pris des coups de talon dans les burnes pendant à peu près toute la période de lancement. Donc, bon, ça prouve que vous êtes à peu près en accord avec le test de Gameblog. Quatrième, le test de Dragon Ball Xenoverse qui sort ce 27 février. Ça fait, en même temps, je pense qu'il a un peu triché, ça fait quelques temps qu'il est là. Mais bon.
Il y a pas mal de magasins qui l'ont.
Là, je parlais du nombre de vues en fait.
Ah, du nombre de lus.
Il a un peu triché.
Romain était déjà à République.
Tu sais, mine de rien, on a fait un test import qui a très bien marché d'emblée. Mais à partir du moment où. Parce que j'ai rajouté quand même deux ou trois paragraphes dans mon test à partir de la version européenne. Et l'intérêt était toujours là. Hein. Le test a bien marché une seconde fois. Mm. Ça a bien fait augmenter son nombre de vues. Et donc, ça confirme, comme si on en avait besoin, que Dragon Ball est une licence qui intéresse encore énormément les joueurs.
Le débat aussi l'a prouvé d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est vrai.
Licence éternelle.
C'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments différents et tous les gens sont vraiment investis dans la discussion et on sent que c'est un bon jeu Dragon Ball, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur aux gamers.
Effectivement. Numéro 3, Destiny, un enfant se fait supprimer ses persos haut niveau sur PS4. Une histoire absolument atroce d'un garçon.
Pauvre gamin.
Bon, après, c'est vrai, Peggy 16. Il devrait pas y jouer.
Gamin,
on est d'accord.
Ah,
alors c'est de sa faute.
On
d'abord.
Est d'accord.
C'est la faute de sa maman.
Non, c'est sa faute à lui. En fait, il a voulu profiter d'un bug du jeu qu'on lui a fait pendouiller sous le nez comme ça, en lui disant oui, passe-moi le compte, passe-moi ton compte PS4 avec le SharePlay, je vais t'aider à grimper tes persos encore plus vite. Bah en fait non, il est parti deux secondes et puis il a vu d'autres ses persos qui sur lesquels il avait passé des plombes et des plombes en train de se faire effacer. Il a éteint la console au dernier moment, mais le mal était déjà fait et il y a eu un épilogue puisque
il a pu en garder un, il me semble.
Oui, il a pu en garder, absolument. Ouais. Et il y a eu un épilogue assez bizarre, puisque la personne qui est censée avoir effacé les comptes, en fait, a eu un accident en novembre et dit avoir passé sa console et donc son compte PS4 à une autre personne. Il sait pas qui encore.
Ouais, mais c'est facile, c'était pas moi.
Bref, c'était pas moi.
C'était lui là.
On m'a piraté mon compte Twitter. C'est pas moi qui ai envoyé ces messages d'insultes.
Exactement.
C'est pas moi.
Donc, une triste histoire. Ne partagez pas avec le SharePlay, avec n'importe qui, c'est la base.
Quelle pourriture quand même, le mec qui s'amuse à faire croire des choses aux gens juste pour pouvoir leur supprimer.
Bungie doit avoir des copies serveurs des personnages.
Mais ils veulent pas, parce que le garçon voulait profiter d'un bug. On va pas encourager quelqu'un.
Donc ils lui mettent une fessée virtuelle.
Exactement.
Mais cela étant dit, pour ce qui est du Peggy 16 sur Destiny, je le comprends pas
très bien.
C'est un peu élevé quand même.
Oui, c'est très très élevé.
C'est un peu trop, clairement.
Numéro 2. The Order 1886, la pire nouvelle licence PS4, Xbox One et Wii U.
C'est très contradictoire. Hein.
En fait, non, on s'est posé la question
qui était posée,
par rapport au Metascore, rapport à Metacritic. Et c'est pas la pire. On a la réponse, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus.
La pire, donc au niveau de la notation.
Au niveau de la notation globale, l'agglomération de toutes les notes des sites qui sont répertoriés par Metacritic, c'est pas la pire. Mais on est loin d'être la meilleure quand même. Sur à peu près 19 nouvelles licences AA.
Il s'est autant fait critiquer qu'encensé ce jeu. C'est marrant. Il a vraiment divisé les joueurs.
Il a énormément divisé. Mais ça tombe bien.
Dans certains cas, en politique, on parle de vote sanction.
Ouais.
Et je pense que dans certains tests, The Order a subi une notation sanction aussi.
Ouais.
Mais parce que. Après, il y a les gens qui disent, d'un côté, tu as les défenseurs, les fervents défenseurs qui vont trouver que c'est un jeu génial. Mmh. Il faut quand même pas exagérer.
Non, personne n'a dit ça, je crois.
Bon, si, y a des...
Moi, je te dis qu'il est
dans les sondages,
moi, je
dans
te dis qu'il est génial,
un des
Romain.
Résultats.
Génial.
Tu vas prendre en photo.
Un des résultats.
Génial, j'irai pas jusque là.
Un des résultats principaux, c'était quand même très bon dans le sondage.
Ah bah après, ils ont le droit, mais je crois pas qu'ils ont mis culte, en tout cas.
Ah, il y avait encore au-dessus,
je crois. Je suis pas sûr qu'ils aient mis culte. Bref. Numéro 1, j'ai quelque chose à vous dire sur la polémique The Order 1886, incroyable, encore The Order, Julien qui avait envie de réagir un petit peu justement à tous les soucis que peut rencontrer The Order au niveau de la critique, et vous avez été nombreux à réagir encore une fois, et on n'hésitera pas à continuer à faire ce genre de vidéo.
Au fond, je trouve ça génial qu'un jeu ne fasse pas l'unanimité comme ça. Je trouve que ça montre vraiment qu'il y a une différence d'opinion, une différence d'avis. Et je préfère largement, quand on voit l'ensemble des sites d'actu, avec des notes et des avis différents, plutôt que tout le monde...
Ça montre la maturité atteinte par le média, en fait, le jeu vidéo, tout simplement. Parce qu'à l'époque, un jeu qui était bon, il était bon pour tout le monde, quoi. Enfin, c'était, voilà, c'était un test on va dire technique, les animations sont bien, il n'y a pas de ralentissement, la jouabilité est bonne, etc., le scénario est super. Et aujourd'hui tu peux diviser avec un jeu qui affiche des graphismes somptueux,
et on se contente plus de le noter de manière scolaire, en fait. Maintenant il y a beaucoup plus de
ressenti, c'est plus, voilà, le ressenti et la dimension artistique, en fait.
Ce qui est quand même vachement important. Mais t'as raison, ça démontre la maturité du média. Par contre, ça a aussi démontré que, et notamment sur internet avec toutes les réactions qu'on a eues par rapport à The Order, bah que le public, que les joueurs manquent justement de maturité à ce niveau-là.
Mais là, c'est presque plus les professionnels que les joueurs, tu vois. Parce que quand tu demandes aux joueurs, le sondage le prouve bien, les gens sont plutôt enjoués, etc.
Oui, mais il y a eu beaucoup de sites, de journalistes, etc., qui ont été critiqués parce qu'ils ont osé dire qu'ils aimaient le jeu. Il y a eu quand même une grosse polémique, il y a eu un petit peu la guerre.
En gros, tout le monde critique tout le monde dans ces cas-là.
Oui, voilà, chacun voit midi à sa porte, et ils ont tous des causes à défendre particulières, parce que c'est vrai que même avec un sondage, c'est assez compliqué de sortir de la vérité.
Oui, parce que tout ça, qui a joué, bon, par exemple, pas vérifié.
Vous pouvez avoir des joueurs Wii U, Xbox One, PC qui n'ont jamais joué à The Order et qui vont dire que c'est de la merde, juste
non,
parce que ça défend leur cause.
Après,
il y a les fanboys, parce qu'il y en a, il y a des fanboys PS4 qui, même si foncièrement ils savent qu'il y a des problèmes, ils vont dire que c'est génial parce que c'est une exclu PS4 et qu'il faut la défendre. Donc c'est... chacun défend sa cause, et c'est quand même assez difficile de s'y retrouver dans tout ça.
Tout à fait.
Très bien, on va faire un petit détour maintenant par un jeu qui fera peut-être un peu plus l'unanimité quand il va sortir le 2 juin prochain. Il s'agit... petite musique, ambiance.
C'est quand même assez difficile de le reconnaître juste avec sa musique.
Tu rigoles ou quoi, c'est la musique du menu, tu le chantes, tu l'entends
grave. Non, mais au tout début. Après, une fois que le menu se déclenche, oui, tu le reconnais. Super Mario.
Ah, d'accord. Attends, vous reconnaissez même pas ?
Si.
Waouh, vous me dégoûtez. Bon, il s'agit évidemment de Batman.
En train de mettre des coups de poing au ralenti
Batman
sur le menu.
Batman Arkham Knight qui sort le 2 juin prochain. Nous avons eu droit cette semaine à un nouveau trailer tout à fait alléchant qui nous montre un peu plus de vilains, un peu plus de Batmobile aussi, et avec quelques déclarations des développeurs, dont une très importante qui permet de se faire une idée sur la maturité du jeu. Il a été classé M, si je ne m'abuse, Romain, aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas, des précédents volets. Est-ce qu'on va atteindre est-ce que c'est l'escalade de la violence dans Batman?
Rated M for mature. En fait, les précédents Batman, Arkham plutôt, Batman Arkham, je dois préciser, étaient tous teen, donc de public adolescent. Et là, le Arkham Knight est M, donc c'est une classification à peu près l'équivalent à 16 plus, ou même peut-être 18 plus en France, on verra. Et ça place Batman Arkham Knight au même niveau que GTA. Ce qui est assez étonnant.
Ouais.
Mais par contre, Sefton Hill, qui est un des fondateurs de Rocksteady, a déclaré que ça voulait pas dire pour autant que le jeu serait beaucoup plus violent, ou enfin plus gore, ou qu'il y aurait plus de vulgarité. C'est juste par la thématique et par l'histoire racontée, les situations sont peut-être un peu plus sérieuses, un peu plus violentes, donc ça provoque une classification plus élevée.
Bon, et ce petit trailer maintenant qu'on l'a vu, qu'est-ce que ça provoque en vous? De voir.
Oh, l'envie de jouer.
Ah, ça fait rêver.
J'avais déjà envie. Je sais que Romain aussi attendait le jeu avec impatience. Toi aussi.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est la séquence Batmobile, parce que ça m'a fait penser à ce vieux jeu Amiga que j'avais adoré, dans lequel il fallait crocheter les poteaux dans les rues pour prendre les virages à haute vitesse.
C'était l'adaptation du film de Tim Burton, effectivement,
ouais,
par Océan sur Amiga. Où, effectivement,
et donc, j'ai
vibré à ce moment-là.
Océan.
Au moment où tu vois la Batmobile dans les rues, en train de. C'est ce qui m'a fait le plus envie. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
C'est ce que les gens attendaient depuis. Depuis le premier Arkham, de pouvoir diriger la Batmobile, et apparemment il y aura même un niveau un peu poussé d'interaction avec les décors quand on pilote la Batmobile, genre si tu prends un virage un peu serré, tu pourras endommager un peu le coin d'un immeuble.
En termes de destruction, oui, effectivement, ils ont l'air
d'avoir... Tu pourras défoncer les panneaux de signalisation, défoncer des murets en béton. En fait, ils veulent te donner une impression de puissance et de...
Et puis il y a la façon dont il saute dans sa Batmobile quand même.
Ouais.
Voilà.
C'est très, bah, on aimerait bien faire ça le matin quand on se voit la bagnole. Ah, bah, oui. Hein.
Moi, je saute dans mon slip comme ça tous les matins.
Ouais.
Ah, c'est ça, ça me met des images étranges dans la tête, mais j'aime bien.
Non, mais
j'aime
bon,
bien.
C'est super. Voilà, il fait un saut sur place, la Batmobile arrive en dessous, clac.
Il est hyper classe. Moi, je trouve qu'il est encore plus classe, hein, ce nouveau Batman, même en termes. On en parlait hier de la direction artistique. Tu me disais que ça te chagrinait un petit peu.
Moi, je suis choqué en fait depuis les premières images par la différence de comment dire de caractère design des vilains et de Batman. Ils ont tous complètement changé par rapport à ce qu'ils étaient dans le premier, dans le deuxième et dans
totalement
dans
changé.
Ils ont plus du tout la même tronche. Là, ils sont devenus ils ont adopté un ton beaucoup plus réaliste.
C'est plus réaliste, plus adulte.
Et des traits beaucoup plus réalistes et moi ouais, ça me enfin je sais pas, sachant que c'est la même série Arkham, au moins pour ce troisième épisode, j'aurais conservé les mêmes traits pour tout le monde, quoi. Mais là, ils ont vraiment
changé. C'est pas juste une évolution technologique qui fait qu'ils sont mieux faits, quoi.
Non.
Il y a ça, et il y a aussi, je pense, un peu d'évolution du personnage.
Il faut bien que ça évolue.
Sur Reddit, les développeurs ont répondu à des questions hier et ils prenaient l'exemple d'Harley Quinn dans le jeu et ils disaient que dans le premier, c'était encore une nurse un peu bancale. Dans le deux, c'était une amoureuse un peu perdue, un peu paumée, alors que dans le 3, elle sera carrément devenue chef de son propre gang. Donc forcément, en termes de caractère et d'attitude, ça, tu évolues et donc ça peut jouer aussi sur ton look et sur ta manière de te tenir, etc. Après, c'est comme ça qu'il le justifie.
Très bien.
Par contre, j'ai lu des commentaires et qui n'étaient pas forcément idiots, qui disaient que le pitch de ce Batman Arkham Knight, c'est tous les ennemis de Gotham de Batman qui se réunissent justement pour le tuer. Et certains disaient, c'est un peu facile, quoi. C'est un petit peu comme le scénario d'Arkham Origins, où c'est vrai qu'il y avait une sorte de ligue d'ennemis.
Ouais.
Et donc ils disaient que c'était un petit peu facile.
Bah peut-être que c'est un peu facile effectivement, mais après c'est vrai qu'à part la Batmobile pour l'instant on a peut-être un peu l'impression d'une redite. Ça va rester dans les rues de Gotham évidemment, forcément on peut pas se passer de Gotham, mais l'impression de pas avoir de grosses...
Si ce serait pas à Gotham, les gens gueuleraient, donc de toute façon...
De toute façon on peut pas faire autre chose que Gotham ou l'asile d'Arkham
aussi, voilà,
mais le truc c'est qu'on va avoir peut-être l'impression de refaire encore le même jeu. Ça fait trois fois, ça va être la troisième fois qu'on va être dans Gotham, même si c'était des quartiers qui étaient bouclés.
C'était le quartier d'Arkham,
voilà, donc c'est...
là c'est vraiment Gotham City, quoi.
Est-ce que ça va
Il y a plus de nouveautés qu'entre les deux précédents, quand même.
Moi j'ai envie de dire, à part
entre le 1 et le 2, il y avait quand même
à part la Batmobile,
est-ce
qu'il va y avoir vraiment, est-ce qu'on va pas tourner en rond finalement encore avec cet épisode, même s'il va faire au niveau fan service, il va peut-être aller très très loin. Hein.
Moi je fais partie de ceux qui ont bien aimé Origins, même s'il réinventait pas la série, mais en termes scénaristiques il était carré, gameplay ça marchait toujours aussi bien, donc j'ai passé un bon moment. Je me suis pas pris la claque comme j'ai pris sur Arkham City, mais j'ai passé un bon moment sur Origins et je pense que là c'est vraiment Rocksteady qui reprend le projet en main. Je pense que on va vraiment apprécier, on va passer un bon moment. Alors après c'est vrai qu'ils utilisent un peu des trucs un peu simples pour justifier le fait qu'il y a personne dans les rues à part des criminels et peut-être quelques policiers éventuellement, mais bon, je leur fais confiance. Et là en plus ils cherchent à appuyer sur le fait que les ennemis veulent vraiment se débarrasser de Batman de manière définitive. D'ailleurs il y a un échange dans le trailer entre Poison Ivy et Batman à ce sujet là où Batman dit vous y arriverez quand me passant sur le corps, mais en anglais c'est over my dead body, tu vois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, et Poison Ivy lui dit c'est l'idée. Donc et comme il y a le collector, je sais pas si tu te souviens, la statuette collector semblait spoiler un peu, je vais pas en reparler parce que si c'est ça, je veux pas vous révéler la fin.
Avec une petite date dessus.
Mais
ça
a l'air d'être vraiment dark sur ce jeu. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il termine la trilogie et vers quoi ça va nous mener. Quoi.
On espère que ce sera pas une fin triste.
On les
héros
pas.
Ne meurent jamais.
On l'espère tous, mais
surtout dans les comics.
Dernière question avant qu'on passe au deuxième sujet. D'après vous, qui est l'Arkham Knight? Qui se cache derrière l'armure de l'Arkham Knight? Ce qu'on ne sait pas pour l'instant. On n'a pas eu d'indice.
C'est Rami. Rami Boud.
Je me demande si c'est pas Robin.
Tu penses que ce serait
une
Robin?
Des incarnations de Robin, parce qu'il y a, il y a eu plusieurs Robin. Il y a,
ouais.
On peut jouer Nightwing dans Arkham City, non? Si je ne m'abuse.
Dans Arkham City, tu pouvais jouer Robin. Il y avait un DLC scénarisé.
Robin
un DLC scénarisé avec Robin, mais pour les missions, tu sais, les bonus là, tu pouvais incarner Nightwing aussi. Mais le côté scénarisé, c'était avec Robin. Alors il y a Dick Grayson qui est le Robin original, qui est devenu Nightwing ensuite, et il y a Jason Todd, si je me souviens bien.
Je pourrais pas t'aider.
Je suis pas assez pointu en matière de comics, mais je me demande si c'est pas une des versions de Robin qui serait passée du mauvais côté. Enfin, du mais mauvais. Ça serait limite trop prévisible parce que
ce bah, serait si, un peu téléphoné.
Arkham Knight,
mais bon.
dans le trailer, tu le vois aux côtés de l'épouvantail, si je me souviens bien. Donc apparemment, ça
pourrait
dire
une ruse aussi. Hein.
Ouais.
Et ouais, hein, ça se trouve.
Pour le coup, c'est cool. C'est cool qu'on se pose plein de questions, qu'on qu'il y ait des théories, etc. Ça veut dire que tout n'est pas écrit et qu'on se pose encore des questions, qu'on a envie d'en apprendre plus. Donc ça, c'est chouette.
Très bien.
Donc vivement le 2 juin.
Exactement. 2 juin sur PC, Xbox One et PS4 pour le jeu de Rocksteady édité par Warner, Batman Arkham Knight. On passe au deuxième thème maintenant. Ça va être plus difficile de reconnaître parce que là, il n'y a qu'une personne ici qui a été le voir.
C'est, bah, Poufy aussi, mais.
Ah, c'est vrai, il y a Poufy aussi, DJ Poufy même.
Est-ce que. Il est sur sa table de mixage. Avant toute chose, est-ce que je peux raconter le périple?
Ah oui, ah oui, ah, bah, là, le ça, périple là, du Press Tour. Obligé de raconter ce truc, mais qui sort de où? C'est pas possible.
Ah, c'est
quoi.
C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu dans ce métier.
Ouais, dans ce métier. J'en ai pas parlé dans ma prévue vidéo parce que c'était pas le sujet, mais là j'en profite.
Vous n'avez toujours pas dit de quel jeu on parle.
Ouais,
de
White Knight. Attendez, on voulait faire monter la. Ah, je voulais encore faire monter un peu la sauce. Oui, c'est de White Knight, évidemment, de Osome Studio.
J'aurais demandé Awesome.
Ah, on dit Awesome, d'accord.
Ça s'écrit
Awesome. Moi, j'ai envie que tu me dises plein de choses là, parce que tu sais que les survival, c'est mon truc.
Alors, je vais déjà commencer par l'anecdote. Donc, Activision nous dit voilà, on vous invite à une présentation de White Knight dans le studio d'Awesome à Lyon. J'en rigolerai reconnaître qu'on sort. Donc, effectivement, rendez-vous est pris avec d'autres journalistes et le RP d'Acti pour
visite
aller à Lyon.
Visite des studios prévus, voilà, donc présence de Poufy pour filmer et tout ça.
Visite des studios, tout ça. Donc, on arrive à la gare de Lyon à Paris à 8h du matin, ou 8h ou 9h. On prend le train, on arrive à Lyon. Et là, on attend devant le parvis, sur le parvis de la gare, etc. Et on voit le RP d'Acti s'en aller et revenir, mais livide. Et avec une tête, il dit bon bah je crois qu'il va falloir vous aller s'asseoir quelque part parce que j'ai des coups de fil à passer. Et moi je lui dis en plaisantant pourquoi on n'est pas c'est pas ici. Il me fait ouais c'est ça. Je fais tu rigoles? Non en fait ils sont tous à Paris en train de nous attendre.
Mais non.
Et là je lui dis mais tu sais que j'osais pas en parler mais moi je suis le studio sur Twitter et 2 jours avant ils avaient pris une photo d'un logo de Awesome Studio. Ouais on est en train de se préparer pour le press tour à Paris. Et je m'étais dit ah c'est bizarre. Alors dans ma tête je me suis dit peut-être qu'ils font un événement à Paris pour les blogueurs.
Oh mon Dieu.
Et que les journalistes eux vont dans le studio même à Lyon. Et donc là, on attend et il s'avère qu'effectivement, tous les développeurs sont à Montreuil en train de nous attendre.
C'est incroyable.
Et nous, on est à la gare de Lyon.
C'était qui l'URB?
C'est Alexis.
Enfin, à la gare de Lyon. À Lyon.
À Lyon. Lyon. À Lyon. À Lyon. Lyon-Perrache, si voilà. Je me souviens bien. Et donc on attend et il arrive à nous avoir un billet une heure après pour repartir à Paris. Donc ce qui fait qu'en l'espace de 5 heures, à peu près, on a fait 1000
km.
On a fait 5 heures de train et 1000 km pour finalement atterrir à Montreuil où les développeurs nous attendaient depuis le matin.
Avec le sourire. Voilà. Bah alors,
un poil gêné.
Alors qu'est-ce qui s'est passé à Montreuil? Qu'est-ce que vous avez vu?
Et ben en fait,
qu'est-ce
que
j'ai pu y jouer?
On a découvert le studio qui est en fait une sorte de local d'artistes où des soudeurs, des sculpteurs, des peintres et Awesome se réunissent à différents points pour créer leurs produits. Et donc on a pu jouer au jeu à la version PC avec une manette. Et pour le coup, c'est vraiment parce qu'ils disent que White Knight c'est un survival horror à l'ancienne, c'est tout à fait vrai. Ça se passe dans une vieille maison. Les décors sont fixes avec des angles de caméra fixes là aussi.
C'est du Alone in the Dark.
Ouais,
ça fait
Alone in the Dark, ouais, Resident.
Les plusieurs membres de l'équipe de développement travaillaient chez Eden Games à une époque et ont travaillé sur le dernier Alone in the Dark qui était pas forcément réussi, mais sont de grands fans de la licence et ils voulaient lui rendre hommage. D'ailleurs, ils ont rencontré Frédéric Reynal à qui ils ont présenté le projet, etc. Et donc voilà, maison à l'ancienne, décor à l'ancienne aussi, mais graphisme en noir et blanc. Et donc ça c'est vraiment particulier. Et le fait d'être dans le noir, ça, si vous êtes dans le noir trop longtemps, bah vous mourrez tout simplement. Donc vous avez des dans Resident Evil par exemple, tu pouvais récupérer des cartouches pour ton flingue, et bah là en fait tu récupères des boîtes d'allumettes et tu dois en permanence allumer des allumettes pour t'éclairer et pour survivre. Et le truc c'est que certaines allumettes se cassent. Donc genre tu récupères 7 allumettes, il y en a une qui va se casser, donc ça te fait
aléatoire.
Ça te... Ouais, c'est aléatoire, ça te fait gâcher
une allumette. Donc t'as des allumettes cool et des allumettes moins cool. Voilà. C'est un petit peu comme les piles qui marchent longtemps et pas longtemps.
Et elles durent pas toutes la... autant de temps en fait. Il y en a certaines qui vont s'éteindre très vite, mais alors d'autres qui vont avoir une durée à la Hollywood quoi, où le mec pendant un quart d'heure il est avec sa avec son allumette.
Ça a l'air génial.
Et après t'as des comment dire des petites zones éclairées où en fait tu peux rétablir le courant pour bah déjà pour
souffler un peu déjà
ou pour souffler, pour aussi te montrer des énigmes. Et pour te protéger, et tu peux parce que t'as des sortes de fantômes à différents points qui te, s'ils t'attrapent, ils te tuent tout simplement. Mmh. Et si t'arrives à prendre ton temps et à pas trop te précipiter, tu peux les faire en sorte qu'ils te suivent
et, dans la
et les faire aller dans la lumière.
C'est
pour t'en,
uniquement
t'en débarrasser.
Des fantômes, y a pas de zombies, y a pas de monstres.
Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, la zone du jeu que j'ai pu essayer, c'était que des fantômes. Et en fait, ils sont vraiment troubles. Tu vois pas bien ce que c'est. En fait, tu vois des formes vaguement humaines, mais c'est trouble.
Et en termes d'énigmes, c'est du Resident Evil.
C'est très simple. C'est... Par exemple, tu vas avoir un tableau avec une fente dans lequel tu vas devoir mettre un couteau et donc tu vas devoir aller à différents endroits pour récupérer les couteaux, pour les mettre dans les fentes et débloquer un passage.
Oui, d'accord.
Etc.
Donc c'est très quand même
c'est très classique.
Classique.
C'est
voilà.
Très classique
c'est très
à ce niveau-là. Par contre, ça m'a pas fait peur. Mm-hmm. Mais par contre, j'ai bien stressé à certains moments parce que déjà, si t'arrives dans une pièce que tu connais pas et que t'as pas trouvé où allumer la lumière, et bah si tu restes dans le noir trop longtemps, bah tu meurs. Mmh. S'il y a un fantôme qui te poursuit et que là encore tu sais pas vraiment où aller, bah tu meurs aussi. En fait, il y a pas mal de die and retry dans.
Ça fait un peu Alone in the Dark rencontre Alan Wake aussi.
Oui, il y a un petit côté Alan Wake. Ça m'a fait penser à Alone in the Dark, ça m'a fait penser à Resident Evil, ça m'a fait penser à Alan Wake pour le coup de la lumière, etc. Mmh. Et c'est plutôt sympa pour l'instant, ça m'a pas fait peur, c'est dommage parce que j'aime bien avoir peur quand je joue à ce genre de jeu, mais
alors, j'ai pas vu l'image, je me permets, c'est en vue subjective, c'est
alors, regarde, tu vois les images actuellement,
ah bah,
tu
voilà,
peux
bien,
voir les images à l'écran,
okay.
Comme vous, si vous
êtes
ça ressemble beaucoup à Alone in the Dark.
Ah oui, c'est très Alone in the Dark, ouais.
Et
ouais,
le rendu et pour le coup, t'es vraiment seul dans le noir, quoi. C'est vraiment la traduction littérale d'Alone in the Dark, ce que tu vis dans ce jeu. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage techniquement, parce que le style visuel, il est vachement accrocheur, c'est qu'il y a pas mal d'aliasing. Mm. Ça scintille et des fois, ça te déconcentre, surtout quand t'as des papiers peints, tu sais, à motif, etc., et que ça passe du noir au blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ça scintille un peu. C'est dommage.
Encore une question, parce que moi, c'est vraiment le style de jeu qui m'attire. Donc pas d'armes, pas de, tu peux pas te soigner.
Je me souviens plus. Tu peux te reposer en fait il y a des fauteuils.
D'accord, et là tu sauvegardes, c'est ça.
Et voilà, là tu sauvegardes en te posant sur le fauteuil.
Okay.
Et la santé, je me souviens plus. En fait, je crois que le seul moyen de mourir, c'est si t'es chopé par un ennemi ou si tu restes dans le noir trop longtemps.
D'accord.
En fait, si tu restes dans le noir trop longtemps, ton personnage perd la boule en fait et
c'est game over
et tu reviens au dernier point de sauvegarde.
C'est top parce que c'est vraiment pour moi c'est ça un vrai survival horror. Mmh. On n'est pas armé, on est un personnage lambda, on n'est pas un membre d'une unité d'élite et puis on doit voilà survivre vraiment à la pression, à l'angoisse.
Bah, tu dois quoi,
à
Resident Evil alors, non alors
malheureusement, Resident Evil.
Non, parce que tu dis, on est
malheureusement, heureusement, ouais. Resident Evil sort.
Mais
il
moi,
est déclassé.
Le
parce que tu disais, on est pas
de toute
ma
vie, c'est Project Zero.
À Project Zero,
où
il est
juste
génial.
Un appareil photo.
Juste un appareil photo, tu dois ramasser des péloches. Non, mais j'ai adoré mon Resident Evil, c'est ma série, c'est mon survival horror préféré. Mm. Mais le vrai, pour moi, les vrais codes du survival, c'est ne pas être armé, c'est Outlast, pour te donner un exemple.
Mais je pense que tu peux avoir plusieurs sous-genres de survival horror. Ouais. Moi, Resident Evil, c'est mon top en termes de survival.
C'est la référence.
Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Tu peux avoir des expériences différentes. Et pour le coup, c'est ça qui est sympa avec White Knight, c'est que c'est une expérience vraiment, vraiment original. Et juste dommage cette petite ce petit scintillement à l'écran qui
ouais,
est
sur PC chinois. Sur la machine supérieure, ça devrait être facilement
bah
réglé
non, parce qu'on y a joué sur PC.
Ah
mince. Et on y a joué
ouais,
sur PC.
Vous avez pas joué sur le bon écran, c'est pas
ce qui me fait le plus tiquer dans ce que tu as dit, c'est quand même que tu as pas eu peur.
Non, j'ai pas eu peur.
Ça c'est dommage.
Mais après c'est peut-être parce que je suis trop habitué.
T'étais un dur, toi.
Bah, on bosse avec Traz. Donc maintenant, tu sais,
dans la vie actuelle et intense.
T'as appris à ne plus sursauter pour n'importe quoi.
Ouais, non, mais c'est ça en plus. Il nous fait tellement sursauter à longueur de journée que. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que t'as ce petit stress parce que t'as envie de te défier tout seul à continuer d'avancer. Mais si tu meurs bêtement et que ta dernière sauvegarde elle remonte à perpète, bah là tu t'en mords les doigts. Donc,
il faut s'asseoir souvent.
Oui, bah, il faut s'asseoir. Mais il n'y a pas de fauteuil partout, alors donc c'est ça qui est ça
et
qui est
gênant. Et la maison est plutôt grande, ça t'a donné une impression de grandeur.
J'ai vu que quelques pièces pour le coup, c'était une démo qui n'était pas.
Et les énigmes étaient intéressantes.
Bah, ça oui, fait un peu ça... à la résidente, quoi. Des ouais, trucs c'est pas assez, trop. C'est
on en a parlé déjà, hein, je crois, des énigmes.
Il n'y a pas d'interrupteur et tout ça.
Il faut jouer avec la lumière, explorer.
Ouais.
Voilà, il faut jouer avec la lumière et explorer. C'est surtout sur les énigmes que j'ai vues, c'est comme ça que ça se passe.
Mais c'est cool le coup des allumettes parce que justement, ça fait un petit peu penser aux piles dans Outlast. Je prends cet exemple parce que c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Tu as des piles qui durent très longtemps, puis tu as des piles au bout de 3 minutes. Voilà, tu n'as plus de lumière pour ta caméra. Donc c'est.
Ah bah, quand tu arrives à la fin de ta boîte et qu'il te reste genre 3 allumettes et que tu en grattes une et qu'elle se casse, tu l'as un peu mauvaise parce que quand t'as plus d'allumettes, t'es quasiment mort, quoi. À moins de savoir que dans la pièce juste à côté t'as une zone éclairée, tu meurs.
Ça va être top. C'est prévu pour quand ça?
C'est le 3 mars sur PC Mac, le 4 sur PlayStation et le 6 sur Xbox.
Bon, PlayStation
4, oui.
Voilà, Xbox One,
voilà. D'accord. C'est que New Gen pour l'instant.
T'as convaincu Carole là.
Ah oui. Ah bah, déjà, mais j'avais pas eu le temps de me pencher là-dessus, j'avais rien vu.
En plus, c'est un peu un acte militant parce que c'est un indé français, le jeu est pas vendu très cher, il me semble c'est une quinzaine d'euros, donc voilà.
Ah, mais alors attends, détail important, la durée de vie, parce que c'est super important.
La
c'est
durée
troll,
de vie,
hein.
c'est très important.
N'est-ce pas, c'est très très important.
Et j'ai eu 2 sons de cloche différents.
Ah.
C'est ça qui est amusant parce que quand j'interroge Ronan Coiffec, qui est le directeur de la création du studio, il me dit ouais, en prenant bien son temps, en lisant les documents, c'est 8-10 heures. Mais à un autre moment, en jouant au jeu, en parlant à quelqu'un d'autre du studio, il me fait ouais, c'est environ 6 heures.
Donc, tu vois, peut-être que c'est 6 heures en ligne droite.
6 heures sans prendre ton temps. Alors.
6 heures en ligne droite, et peut-être que si tu explores, si tu aimes l'ambiance, si tu tournes
assez,
un peu.
C'est assez compliqué de jouer en ligne droite dans celui-là.
Bon, c'est un scandale, j'y jouerai pas du coup.
Mais là encore, c'est horrible. Jeu des maths, 15 euros. Quoi.
Très bien, on va passer maintenant à un autre jeu des maths, un autre jeu court, mais il s'agit d'un jeu épisodique, surtout, petite musique comme d'habitude, que sûrement Carole va reconnaître, et Romain aussi, puisqu'il y a joué également. Il s'agit de Resident Evil Revelations 2.
Tu l'as pas dit comme il faut le dire, comme dans le jeu.
Resident Evil.
Oh, tu le fais super bien.
Un métier.
Il aime bien faire ces trucs-là.
J'adore.
La voix de Batman.
Incroyable.
T'as taillé aussi, il fait vachement bien tailler. Regarde, je te montre. Je mets la main derrière.
Incroyable et magique. Et
il est surpuissant. Et donc Resident Evil Revelations 2 qui est sorti la semaine dernière, pour lequel Carole, tu nous as fait un joli petit test, un jeu épisodique en quoi, 5 épisodes,
4 épisodes et 2 spin-offs.
Et 2 spin-offs.
Ouais.
Tiens donc, 2 spin-offs.
On ne connaît pas le contenu pour l'instant.
On ne connaît pas le contenu. Je les ai téléchargés, mais je suis encore sur l'épisode 2. Pour
les spin-offs qui sont offerts avec le season pass, hein, qui,
exactement,
si j'ai bien compris,
absolument. Et le jeu sortira en
moins
physique,
cher que les jeux achetés à part.
Ouais.
Mais qui a ces 2 épisodes offerts.
Exactement, voilà. Donc avec et puis le jeu en physique sortira dans un petit mois. Dans
3
semaines.
Je me souviens plus des dates, mais c'est un peu après.
Voilà.
Et avec la version boîte contiendra les 2 spin-offs
tout
également.
Fait,
voilà. Sortie hebdomadaire, hein, donc pour chaque épisode.
Exactement.
Le deuxième, là, au moment où on est en
ils
train de parler.
Voilà, ça sort mardi. Tous les mardis. Voilà.
Voilà, tous les mardis. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, ma chère Carole? Déjà, en termes d'histoire, est-ce que c'est bien?
Et moi,
pour
j'ai trouvé que c'était vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. Bon, disons que j'aime bien quand il y a des zombies, tout ça. Non, mais très très.
J'aime beaucoup les zombies.
J'aime beaucoup les zombies. Ouais, voilà. Non, mais arrête, tu vas me faire rigoler là. Ça y est, moi, quand je pars, c'est terminé après. J'ai adoré le scénario. Je trouve que c'est intéressant. À la fin du premier épisode, qui dure environ 3 heures, tu m'as à peu près 2h30-3 heures selon le
temps
que tu
prends. Moi j'ai mis juste en dessous de 2 heures, mais on jouait à 2 et en difficile.
En coop, voilà, ouais. Tu peux jouer en coop en écran splitté, effectivement. Moi j'ai
ça dépend, sur PC on ne peut pas.
Sur PC on ne peut pas, mais
sur PC c'est que du solo.
Je m'excuse, c'est vrai que je suis un PCiste. Moi j'ai joué donc sur Xbox PS4, Xbox One pour l'épisode 2 là. Donc j'ai mis à peu près à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour chaque campagne, en prenant bien mon temps. Et à la fin du scénario, à la fin de ce premier épisode, eh bien on a envie d'aller plus loin, c'est intéressant. On retrouve Barry Burton, donc je trouve que ça c'est vraiment cool.
Que D'Angelo a adopté le look, hein, d'ailleurs. Hein. Sa barre, c'est vraiment
fait.
Un hommage à Barry Burton. Hein.
Un hommage à Barry. Ce Barry, cet incroyable Barry qui réparait les poignées de porte.
Depuis le premier, je voulais jouer avec Barry.
Non,
dans
mais
un
Barry,
scénario.
Il a la classe. Est-ce que tu lui as rendu son magnum dans Resident Evil 1?
Mais oui, je l'ai eu. Ah oui, bien sûr.
Bien sûr, moi aussi, moi je l'ai sauvé. Hein.
Moi, quand je pense à Barry, je pense toujours à sa blague sur Jill Sandwich.
Mais d'ailleurs. D'ailleurs,
blague.
Il y a pas mal de petites.
Je
me rappelle de rien.
J'explique pour Plumeau.
Ouais.
Dans Resident Evil 1, tu as une pièce où tu peux récupérer le shotgun avec Jill.
Ouais.
Et si tu retires le shotgun et que tu rentres dans la pièce suivante.
Et que tu ne le remplaces pas par le fusil cassé.
Ouais. Et bah t'as le comment dire le plafond de la pièce qui s'effondre et les portes qui se bloquent, donc Gilles est coincé.
Enfin il s'effondre pas, c'est un mécanisme.
Oui, oui, c'est un piège. C'est un piège.
Voilà, je me rappelle plus de tout ça.
Et comment dire, au bout d'un moment, bah t'as Barry. Enfin d'ailleurs il vient que si tu ne lui as que si tu n'as pas pris le bazooka avant. Parce
ah,
que
ça,
sinon
je savais
tu
pas.
Peux
moi,
mourir
il,
avec
quel, il quel est toujours venu.
Vous avez joué il y a pas longtemps.
Mais il vient aussi t'aider quand tu te tapes contre la plante si tu as d'abord été
enfin il y a plein de
résumez-moi tout de suite.
Si Barry vient, en fait il te sauve et t'empêche de te faire écraser et il te dit ouais bah t'as presque fini en Jill Sandwich. Genre la une mauvaise blague
et c'est une espèce de truc qui est devenu culte enfin sur les internets
et un moment sur YouTube dans Révélation 2. Tu as Claire qui fait oh j'ai failli me retrouver en Claire Sandwich et comme tu joues avec sa fille
Moira, voilà.
Moira Burton elle fait oh me dis pas qu'il t'a raconté ça toi aussi.
Mais il y a pas mal il y a pas mal de petits clins d'œil à un moment donné bon je veux pas spoiler hein, mais je situe un petit peu le truc. Elle se retrouve donc elle se rend compte de l'endroit où elle se retrouve prisonnière et donc elle est là oh là là pas encore, donc elle fait référence à ses premières aventures en Code Véro. Elle se réveille dans une prison, ça tout le monde le sait, c'est le début du jeu. Encore une fois, référence à Code Véro. Donc il y a pas mal de petits clins d'œil. Mais je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment des mécanismes de gameplay et plein de petits clins d'œil, plein de petits rappels à Resident Evil 4, qui est un épisode que j'ai vraiment aimé. Il y a cette possibilité de switcher aussi entre les deux personnages, un peu comme dans Resident Evil 0. Je trouve qu'il y a une bonne complémentarité entre les deux personnages. Sachant que Claire va pouvoir se servir donc d'armes de poing, fusil à pompe, etc. Moira a peur des armes. Elle peut se servir de sa lampe torche pour
éclairer les
ennemis. Ouais. Pour aveugler les ennemis, voilà. Ou montrer les objets cachés.
Ou montrer les objets pour qu'on puisse les récupérer. Du côté de Barry, c'est Natalia qui va pouvoir pointer les objets du doigt et donc les repérer.
Qui est Natalia ?
Natalia, alors c'est une petite fille, on n'en sait pas plus pour l'instant. C'est
le binôme de Barry.
C'est le binôme de Barry, voilà.
D'accord. Une sujet d'expérience
en
sur
pyjama,
l'île.
Voilà. Et d'ailleurs, que Moira et Claire croise au détour d'un couloir, mais on sait pas trop qui c'est. Enfin, je raconte pas, je veux pas, surtout pas spoiler pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est intéressant. Elle peut percevoir les ennemis en concentrant son ouïe. Si elle s'accroupit, cette ouïe prendre l'ampleur. Donc c'est vraiment super intéressant. Et puis la campagne avec Barry est vraiment, vraiment oppressante.
Et en termes de mécanique de jeu, parce qu'on va peut-être revenir au gameplay, est-ce que c'est bien rythmé, est-ce que c'est vraiment une bonne alternance de survival, d'action, d'énigmes?
Alors, t'as des petits sursauts en plus, ils arrivent à te stresser un peu par moment, c'est super bien ficelé. Est-ce qu'en plus ça tu l'apprends pas forcément aussi, tu l'apprends assez vite, les deux campagnes, celle de Claire et Moira et de Barry et Natalia, ne se déroulent pas à quelques jours d'écart. Et donc ce qui fait que quand tu commences avec Claire et Moira, ce que tu vas faire dans le déroulement du jeu va en fait te poser des soucis quand tu joues avec Barry par la suite.
D'accord.
C'est un mécanisme que tu enclenches pour toi,
te
sauver la vie,
va
ensuite te causer du tort.
Mais
quand
c'était ce qu'on croyait qui était le cas aussi dans Resident Evil Revelations 1, si je me rappelle d'ailleurs. Même si j'ai pas envie de spoiler, mais parce que il y avait on croyait qu'on était sur le même bateau, mais bref.
Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est à ça que tu fais référence. D'accord.
Quand tu joues en coop, du coup tu joues le binôme Barry plus la petite fille, ou Claire plus la petite fille, et c'est sympa ça de jouer en coop.
Ça je sais.
Alors,
pas, c'est Romain qui a fait
moi je l'ai fait intégralement en coop avec mon meilleur pote, et j'avoue qu'au début du jeu
avec qui. Attends, j'ai pas réussi à la mettre. Merde, pardon, excuse-moi.
Tout n'est pas sale dans ma vie, Plumeau. Ce n'était pas un cousin, c'était juste un pote.
Ah, c'est dommage.
En tout bien, tout honneur.
Ah, j'ai loupé mon coup là. J'ai loupé mon coup de chariot.
Mais est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est.
Et juste ce qui est amusant, c'est que bon, moi je dirigeais Claire qui a les guns, etc. Et assez vite dans le scénario, Claire dit à Moira, il faut qu'on trouve une arme. Et là, mon meilleur pote, il était là, ouais, enfin, je vais enfin pouvoir shooter des trucs. Et elle fait. Ah non, je ne veux pas toucher à ça. Et tout. Donc il s'est retrouvé limité avec la lampe torche et le pied de biche pendant toute
cela
la campagne.
Cela dit, elle peut se défendre, elle peut aveugler les ennemis et achever les ennemis
à coups
de pied de biche.
Finalement, ça s'est très bien passé.
Mais quand tu joues en solo, c'est un boulet l'autre, comme ça avait été le cas dans Resident 5.
Ah non, pas du tout, c'est pas Sheva quoi.
L'avantage, c'est que tu peux switcher. Alors que quand tu jouais seul à Resident 5 avec l'intelligence artificielle, tu pouvais pas la débloquer en fait. Si elle merdait, elle merdait.
Tu traînais un boulet quoi.
Et d'ailleurs, là, effectivement, l'IA est pas du tout aux fraises. Enfin, c'est assez bien calibré. Le ton binôme fait le job. Et ce qui est cool aussi avec Natalia, c'est qu'elle peut détecter les points faibles de certains ennemis qui sont assez effrayants d'ailleurs.
Petit passage dans la forêt.
Petit passage dans la forêt.
Quand tu vois plus rien. Et...
C'est ce que je disais. C'est plus angoissant que le passage. Enfin, moi, j'ai préféré la campagne.
En fait,
de
ça ressemble plus à un Resident Evil que tous les Resident Evil depuis le 5.
Eh bien, oui. Voilà. Et moi, je trouve aussi qu'on revient un petit peu à la source, même si on n'est pas à l'ambiance de Resident Evil 1 ou 2.
Non, mais on est voilà. plus proche, quoi. Mais
on n'est pas
terrifié.
Du tout,
j'ai
non.
J'ai pas eu de sueur froide.
Peur.
Mais c'est sympa et c'est bien meilleur que Resident 6. Je trouve que l'histoire, pour l'instant, j'ai fait que le premier chapitre. Hein, elle est bien
envie,
ficelée.
Oui.
J'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Mm-hmm. Les deux binômes marchent bien.
Ouais.
Le rapport entre Barry et la petite fille, ce côté un peu protecteur et ce côté papounet un peu, est plutôt sympa. Les rapports aussi entre Claire et Moira sont cool aussi. Même si le seul bémol, c'est que Moira, je trouve qu'elle abuse un peu du côté adolescente relou, quoi.
Elle parle de son père par son prénom.
J'aurais dit pas papa, elle dit oh Barry, il me fait trop mal. Ça, c'est un peu marrant.
Il me fait
parce
chier,
que, tu vois, voilà.
compagnie, elle est très très rebelle. Par contre, voilà, un des rares bémols dans le jeu, c'est voilà, pas d'énigmes, pas vraiment le retour des énigmes,
non.
comme je les appelle, les énigmes horloge, blason.
C'est des mécaniques.
Techniquement, ça marche quand même, techniquement, c'est pas trop daté.
Ah non, apparemment, c'est le même moteur graphique que. Révélation 1, c'est peut-être.
Moi, Révélation 2.
Je trouve que c'est pas beaucoup plus beau. Hein.
Révélation 2, j'en ai entendu parler.
C'est propre, mais.
Très longtemps avant son annonce officielle. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était un jeu PS3 360. Donc, clairement, c'est un jeu de génération précédente qui a été un peu boosté pour le passage sur les nouvelles consoles. Et
non, mais c'est propre.
C'est propre. Et j'ai été assez impressionné par le visage de Natalia.
Oui.
Je trouve qu'il y a un gap entre Natalia et tous les autres personnages que tu croises. D'ailleurs, ils font plusieurs gros plans sur elle. Je trouve qu'elle est très bien faite. Et là encore, c'est un jeu des maths téléchargeable.
Combien 4,99€ chaque épisode ?
Non, 5,99€.
Et pour le coup, il les vaut largement pour l'instant.
Oui,
en tout cas, j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai hâte. J'y avais déjà joué seul. Je l'ai refait en coop. Je trouve qu'il est bien, aussi bien seul qu'en coop. Et j'ai hâte vraiment de voir la suite. Bonne surprise.
Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Très agréablement surprise. Ouais, vraiment, j'avais peur que. J'avais bien aimé Révélation 1, j'avais trouvé justement qu'on revenait un petit peu à la source sur le Queen Zenobia. On était dans des endroits un petit peu. Endroits clos, c'était sombre. Après, c'est une question de goût, c'est très personnel. Mais en tout cas, ce Révélation 2, vraiment, c'est une bonne surprise et je le conseille aux fans de Resident Evil et même aux ceux qui ne sont pas forcément fans.
J'ai ressenti aucune des frustrations que j'ai pu ressentir dans Resident 6 à certains moments.
Vraiment, j'aimais bien la campagne de Léon dans Resident 6. C'est la seule que j'ai vraiment aimée.
Il y avait trop de bugs, des problèmes de caméra, etc. Là, j'ai à aucun moment j'ai été bloqué par les choix de gameplay et techniques de Capcom.
C'est vrai.
Après, alors peut-être que ça va se casser la gueule sur les prochains épisodes, ce que je ne souhaite pas. Mais pour l'instant, j'invite les fans de Resident Evil à donner sa chance à ce premier épisode.
Tout à fait.
Moi, j'y joue plus depuis le 4. Hein. Le 4, c'est mon dernier.
Bah t'as bien fait, tu t'es arrêté où il fallait.
Moi j'ai bien aimé le 5 et je continuerai éternellement de
le défendre
mon Dieu.
En coop.
Oui, enfin un mec qui aime pas Zelda,
hein,
je veux dire bon.
J'aime bien le 6, hein, c'est un plaisir coupable pour moi, le 6, mais bon. Après,
c'est une série qui divise.
Chacun ses goûts.
Qui divise énormément.
Mais le 5 en coop est excellent dans la vie actuelle et intense.
Je suis vachement bien.
Je crois pas que ce soit possible.
Oh, tu sais.
Maintenant que nous avons fini de parler de nos thèmes principaux,
que personne n'a compris.
Bah, personne ne comprendra pour l'instant, effectivement, mais ne t'inquiète pas, un jour, ça arrivera. Nous allons passer maintenant.
C'est l'heure du boom.
Au hors-jeu. Exactement, tu savais que c'était un boom. Tu sais tout, toi.
Je suis trop doué.
On va commencer par Carole, justement. Carole, ton. Non, ouais, bon, ok. Arrêtez de jouer, hein.
Parle-moi, mon primo, vas-y, profite de ce moment.
Carole, tu as envie de nous parler de quelque chose qui te tient. À cœur. Et non, ce n'est pas Horatio Kane. C'est. On va arrêter ça tout de suite.
On a trouvé un nouveau jouet.
Voilà, on va arrêter ça immédiatement. Toi, Carole, tu as été voir des bestioles avec plein de poils partout.
Des animaux avec des poils et des os.
Mais qui sont pas très vivants.
Ils sont pas très vivants, ils sont même morts. Hein,
ouais, on peut même dire
qu'ils
sont morts.
Les morts. Moi, les zombies,
ça se passe au Jardin des Plantes, c'est la grande galerie de l'évolution que t'as été.
Génial,
que t'as
j'adore.
Été voir ce week-end, si je ne m'abuse.
Absolument.
Et c'était ta première fois là-bas.
C'était
qu'est-ce que tu en as pensé?
C'était ma toute première fois.
Alors attends, d'accord, non, ah, faut arrêter, faut arrêter. Personne ne touche cette tablette à part moi ici.
Non, j'allais remettre Carles.
Non, tu touches plus. Plus
non,
pas
c'était vraiment
ça.
Génial, il y a une super
c'était
ambiance.
Ma première fois avec des
alors,
animaux.
Alors la première chose, c'est qu'effectivement, donc, tu découvres tous les animaux de l'ère préhistorique jusqu'à aujourd'hui. T'as les ours polaires, t'as les éléphants, les mammouths, voilà, les girafes. Enfin, c'est vraiment génial, surtout pour les enfants et aussi pour les adultes. Hein. Moi, je me suis régalée. T'as des énormes squelettes de baleines. T'as la baleine bleue, t'as
qui sont au plafond d'ailleurs. Hein, si je ne m'abuse, il y a un requin peut-être qui est au plafond. Si
alors
je me rappelle.
Alors il y a deux baleines qui sont au plafond, puis t'en as une qui est posée sur une espèce de petit pilotis. Mm. Et donc c'est super sympa, c'est très grand et le bâtiment en fait qui abrite donc cette exposition, eh bien propose des jeux de lumière. Des jeux d'ambiance aussi, si on peut appeler ça comme ça. Des moments, il y a l'orage qui éclate, la lumière baisse. Quand c'est le soir, ça baisse un petit peu pour donner une impression de nuit, de soleil couchant, de soleil levant. Mmh. Un petit peu comme si on était dans la savane, puisque voilà, t'as les lions, les girafes. Enfin, c'est vraiment très, très sympa comme ambiance. Ça coûte 9€. Les journalistes ne payent pas, donc vous pouvez y aller gratuitement. Moi, je suis pas journaliste.
Un scandale,
alors,
vous payez jamais rien.
Oh, oui, c'est voilà. Vrai, mais
c'est vrai que c'est un scandale.
Vous me dites ça, mais j'ai peut-être allé aux eaux de Vincennes là tout à l'heure, vite fait.
C'est cool. Sympa aussi, non, les animaux sont ouais. un peu plus
là, ils sont vivants,
un peu plus vivants. Ouais. Mais en tout cas, c'est très cool. Tu découvres aussi tout ce qui est ça démarre vraiment de c'est vraiment la naissance de la vie. Hein. T'as les petites les mollusques, voilà, les tous les poissons. T'as les requins.
Ouais, ça balaye à peu près toute la faune et
toute
la faune depuis.
Il y a un endroit de la galerie de l'évolution. Moi, j'y suis allé aussi. J'y suis allé quand j'étais petit, puis j'ai emmené mes enfants il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, pour les enfants, c'est génial parce qu'effectivement, avec tous les petits jeux de son, lumière, etc.
Ah ouais, c'est vraiment génial.
C'est très sympa.
Mais il y avait une partie réservée à la nuit, si je me rappelle, il y a pas très longtemps aussi. Hein.
Alors,
une partie réservée hein
à la nuit uniquement, non
Je sais
plus, peut-être que je confonds avec un autre.
Je sais pas.
Arrête de toucher cette tablette.
C'est vraiment chiant.
Non, mais t'as aussi, je me rappelle,
une partie réservée à la nuit.
Il y a un truc qui est marquant, et d'ailleurs, mes enfants avaient complètement halluciné. T'as la courbe de la presse. De la présence du nombre d'hommes sur Terre.
Ah oui, c'est impressionnant.
Depuis son arrivée. Et évidemment, elle part comme ça, et puis d'un seul coup. Au XXe siècle, ouais.
Et la courbe des animaux qu'ils ont exterminés, oui, qui baissent, ils auraient pu la mettre aussi au passage.
Mais c'est assez éducatif, effectivement, t'apprends plein de choses, puis t'as aussi les insectes, les papillons.
Et c'est un endroit magique, je trouve. Ouais. Moi, j'adore le jardin des plantes. Allez-y au jardin des plantes.
Ah bah, l'animalerie du jardin des plantes,
la ménagerie
avec le petit panda roux.
Voilà, la ménagerie est super.
Apparemment, t'as aussi une serre que j'aimerais bien aller visiter aussi derrière. Puis t'as les dinosaures juste devant, mais ça fermait un petit peu tôt. Je suis arrivée un petit peu trop tard, donc voilà, du coup, on a bifurqué vers la galerie de l'évolution. Et il y a aussi les singes, les grands singes, l'histoire des grands singes aussi en ce moment. Donc voilà, j'aimerais bien le faire aussi. Mais en tout cas, la galerie de l'évolution, c'est vraiment sympa et l'ambiance est vraiment top. C'est sur 3 étages, il me semble. C'est assez long. Il faut bien prendre 2-3 heures. En plus, il y a un petit café. Enfin,
c'est une expo temporaire ou c'est
c'est les singes.
C'est là depuis toujours.
Temporaires,
enfin, depuis toujours.
Ça.
Depuis que je suis gamin, ça existe en tout cas.
Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a eu pas mal de travaux, ils ont rénové les lieux. C'est vraiment
et si vous allez
très
là-bas,
beau.
C'est au Jardin des Plantes, et donc c'est dans le 5e.
Il venait de la part de Julot.
Et c'est juste à côté d'un autre endroit qui est magique à Paris, je trouve, c'est les arènes de Lutèce.
Effectivement.
Aujourd'hui, c'est un parc pour gamins, il y a des gamins qui jouent au foot là-bas, etc. Ouais. Et puis c'était les arènes c'est ce qui reste des arènes de Lutèce. Et c'est très intéressant d'y aller parce qu'on est vraiment plongé dans une époque. Et c'est complètement libre, hein. C'est pas un truc à visiter, tu rentres comme ça au détour d'un immeuble, c'est vraiment comme si c'était entre deux immeubles. Il faut absolument faire un petit tour.
C'est ça, moi
là-bas.
Ça me fait tout de suite penser à Astérix.
Il y a la Grande Mosquée de Paris aussi, qui est magnifique.
Qui est très très jolie.
Mais
aussi.
Il y a de belles choses à voir à
mais
Paris.
Mais attends, mais c'est le meilleur
finalement.
Arrondissement de Paris, voilà, c'est tout.
Mais t'y habites pas ?
Bah si, j'y habitais jusqu'à la
fin. J'y ai habité longtemps.
J'oubliais ton enfance dorée.
Mais l'objectif de ma vie, c'est de devenir riche et de retourner là-bas.
C'est vrai ? Mais t'es déjà riche.
Oui, mais pas
l'Arcadia, la banque.
Pas encore assez.
Romain, je me tourne vers toi pour un court-métrage qui nous a tous mis sur le cul cette semaine. C'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, à savoir un Power Rangers version adulte. Alors, explique-moi un petit peu qui est à l'origine de ça, qui est à l'intérieur et le résultat qui est complètement fou.
Alors,
c'est Joseph, son nom
Joseph Kahn.
Joseph Kahn, qui est un réalisateur très expérimenté, surtout de clips musicaux, avec des artistes comme Eminem, Britney Spears, Rihanna, Beyoncé, enfin bref. Et produit par Adi Shankar, qui est le producteur du film Dread, que tu as bien.
J'adore le film Dread. Ah oui, il est excellent ce film Dread.
Et ils ont eu l'idée de faire ce qu'ils appellent un bootleg de Power Rangers, et ça se passe des années. Après la série, en fait, ça reprend des personnages de la série après que la Terre ait été envahie tout simplement par les méchants de la série. Tout va mal, les Power Rangers se sont séparés, ils sont tous partis à différents endroits. Et en fait, tu vois James Van Der Beek, parce qu'en plus, voilà, ce sont de vrais acteurs, c'est pas un projet amateur en fait. Il y a eu de l'argent derrière dépensé pour monter tout ça. James Van Der Beek qui joue le rôle d'un ancien Power Rangers qui serait devenu méchant. Mm-hmm. Et qui interroge Kimberly, la Power Rangers Rose, interprétée par Cathy Sackhoff, qui est la Starbuck de Battlestar Galactica. Et donc, je ne vais pas vous spoiler tout ce qui se passe, mais c'est vulgaire, c'est violent, c'est surprenant. Finalement, les Power Rangers, on ne voit pas une scène... Si au début, au tout début, parce qu'ils montrent comment les choses ont terminé, voilà. Mmh. Donc, on les voit un peu en action. Mais finalement, il n'y a quasiment pas de transformation dans le chose. C'est vraiment Power Rangers les années après, quoi. Et c'est vraiment très, très surprenant. Et d'ailleurs, ça n'a pas du tout plu à Haïm Saban, qui est l'ayant droit et le créateur des Power Rangers aux États-Unis.
Déjà, le créateur des Power Rangers.
Non mais mec, ouais. C'est un plagiat le truc à
oui,
la base.
C'est pour ça que j'ai dit aux États-Unis. Non, mais dans ma news, j'ai mis créateur.
Le créateur entre guillemets, tu l'as
oui,
mis. J'espère.
J'ai mis entre guillemets, ouais. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Power Rangers, ça reprenait les extraits de séries Sentai japonaises et intégrait entre ces scènes de combat des acteurs, des comédiens américains. Mmh. Même si au fil du temps, il y a de plus en plus de scènes tournées, tournées
avec
par les
succès,
les anglophones.
De plus en plus, la partie américaine s'est augmentée.
Voilà, et donc ça utilise toujours un peu de scènes japonaises.
Oh, de toute façon, moi, je préférais Bioman.
Mais bref. Et donc oui, il a pas du tout aimé. Il a demandé parce qu'en plus, nous, la version qu'on a mise sur le site, c'est la version soft. Mm. Parce qu'il y avait une version Not Safe for Work qui était sur Vimeo, qui a été supprimée quasiment
not
tout de suite.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de plus dessus ?
Elle était certainement plus violente, plus vulgaire, de la nudité. Enfin bref, je sais pas.
Bien.
Et
du cul, du sang,
voilà. Tout ce qu'on aime pas.
Et donc
pas, quoi.
Joseph Kahn sur Twitter disait, conseillait, téléchargez-le, gardez-le, etc. Transmettez-le parce que ça risque d'être supprimé assez vite. Et effectivement, la version qui était sur YouTube a été supprimée par Haïm Saban. Alors que, puisque c'est plus ou moins une parodie, que c'est à but non lucratif, normalement la vidéo aurait dû être protégée par la loi américaine dans le cadre du Fair Use, mais visiblement ça n'a pas pris. Et ce qui est assez amusant, c'est que Jason David Frank, qui incarnait le Power Rangers vert dans la série originale et dans moult
et qui devrait refaire le film aussi
qui souhaite participer au film, mais c'est le mec qui a joué dans le plus grand nombre d'épisodes, parce que même dans la dernière saison en date, il avait encore une petite apparition à un moment, enfin bref. Et il a dit ouais, ils m'ont proposé le rôle, parce que le Power Rangers vert apparaît dans le court-métrage. On m'a proposé le rôle, j'ai refusé parce que c'était trop violent pour moi. Power Rangers, c'est encore une licence qui est destinée aux enfants. Moi, je ne pourrais pas regarder ça avec ma fille. Et en plus, le mec, il essaye de bien se faire voir, parce que comme il veut toujours participer au film, il veut participer qu'au projet validé par Saban. Et donc, c'est assez amusant. Et il y a eu un autre tournement, c'est que Joseph Kahn a dit sur Twitter, on lui a jamais proposé le rôle.
Au moins, c'est réglé.
Donc, en gros, j'ai toujours eu en tête ce comédien-là. Il a jamais été question que Jason David Frank participe au projet. Donc, c'est une saga qui se déroule depuis plusieurs jours. C'est assez intéressant. En tout cas, il me semble que le court-métrage est toujours dispo sur Gameblog. Donc, si vous êtes intrigué, n'hésitez pas à aller le voir. C'est vraiment, vraiment surprenant.
Très bien, on va passer maintenant à Julo qui découvre évidemment une série hyper avant tout le monde, voilà. En avance.
Brigade du Tigre.
Non,
alors aujourd'hui Julo, tu vas nous parler de
Arabesque,
American Horror Story, que j'ai découvert, figure-toi, parce que j'étais à cran
entre j'étais au fond du trou
entre chaque épisode de Better Call Saul. Oui, parce que je pourrais vous parler de Better Call Saul, mais je préfère ma réputation de mec à la bourre, donc je vous parle de ce que je regarde entre deux épisodes de Better Call Saul. Et en fait, j'avais envie d'un petit frisson, mais je m'attendais pas à grand chose. J'ai été super surpris par cette série. Je pensais que c'était un truc un peu naze,
un petit frisson donc.
Bah tu vois, tu demandes à Romain de pas jouer avec,
ah, bah, je, Moi j'ai le droit, c'est ma tablette, ah, c'est ce que je veux.
Non, alors cette série, quand tu peux faire le.
Oui, si tu veux.
Allez, hop.
Voilà, j'arrête.
Non, parce que ça me.
Ça te perturbe.
Ouais, ça me perturbe. Non, quand tu regardes les premiers épisodes, t'as l'impression qu'ils ont mélangé absolument tous les trucs, tous les clichés des films d'horreur, des films d'angoisse, des films à sursaut, etc. Et que c'est un melting pot qui prendra jamais, etc. Et en fait, au bout de 2-3 épisodes, l'histoire prend corps, les acteurs sont extraordinaires, je trouve. Il y a notamment d'ailleurs le héros, le père de famille, qui ressemble étrangement à Nathan Drake.
Ouais, Dylan c'est McDermott, qui jouait déjà dans The Practice.
Incroyable, auparavant. C'est lui. S'ils font un film, c'est il faut même, que ce soit lui, absolument. Ouais, ouais. C'est vraiment lui, quoi. D'ailleurs, c'est assez troublant au départ. Et puis, dans cette série, tu... arrête, hein.
Attention.
Dans cette série,
tu es troublé.
Tu sais jamais où t'es, en fait, entre le monde des morts et le monde des vivants. Ils mélangent ça, c'est hyper déroutant. Parce que c'est l'histoire d'une maison hantée, etc. Et l'autre truc que je trouve génial, c'est que chaque saison raconte une histoire différente, une histoire d'horreur différente. Et donc, quelque part, le début, le milieu et la fin, tout est écrit au départ. Et on te traîne pas en longueur, on fait pas du filler, etc. Tu sens vraiment que le scénario est maîtrisé et bien dispatché tout au long de la série, et qu'il y a une fin qui est bien prévue et qu'on va pas te la faire à l'envers. Alors certes, le dernier épisode est effectivement, on en avait parlé tous les deux plus
tôt. Dans chaque saison, le dernier épisode, voilà, est un peu épilogue, un peu plus mou.
Un peu plus mou, mais en même temps, voilà, au moins c'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin qui est cohérent. Et surtout, en fait, c'est vraiment surprenant quand on aime ce genre de cinéma, ce genre de série. Voilà, c'est assez unique. Et cette actrice incroyable qui joue la voisine, famille,
évidemment, Jessica Lange, hein,
Jessica Lange,
qu'on avait découvert dans King Kong voilà, des années 70, et qui aujourd'hui cartonne dans American Horror Story à chaque saison avec un rôle
elle
toujours
est
plus
il
toujours
semble
plus
que
incroyable.
D'une saison à l'autre, les trames sont totalement séparées.
Excepté que la saison 2 et la saison 4 sont reliées.
Il y a déjà 4 saisons.
Oui, on a la 4e saison, les Freaks du cirque, donc vient de s'achever aux États-Unis.
Mais alors, à noter qu'il y en a que 2 qui sont disponibles sur Netflix pour le moment.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert.
Moi, je suis
sur Netflix.
Abonné à Netflix, moi.
Bah Netflix,
c'est
franchement,
tellement dommage, ils sont en retard.
Tellement
comme
de
ça.
Trucs super à voir.
C'est, c'est malheureux. Et donc oui, la saison 4 et la saison 2 ont un petit pont entre les deux, parce qu'il y a un personnage en commun. Enfin, on dira même deux, mais il y en a un en particulier.
Bon, bref, je vais me lancer dans la deuxième saison très vite, parce que vraiment cette première saison, j'ai trouvé incroyable.
Mais bah, tu regardes en famille, donc.
Tu auras.
Bien sûr. J'ai regardé.
Tu auras Dominique et Nikonik dans la tête pendant un moment. Quand tu vas regarder la deuxième saison, je te le dis tout de suite.
Oui, il y a une bonne sœur là-dedans, dans cette histoire.
Exactement. Avant de passer au quiz, j'ai aussi un hors-jeu. J'ai eu la chance d'aller au cinéma pour voir Birdman, le film de Alejandro González
Iñárritu. C'est terrible.
Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors j'ai vu Whiplash il y a 2 semaines, je vous ai dit oh, film génial machin, ça m'a foutu une tarte.
Film de l'année.
Mais alors là, Birdman, mais ça dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui.
Dans ta vie.
Dans ma vie, oui. Ah non, mais vraiment, parce que
dans ma vie de joueur.
Quand vous le verrez, vous comprendrez que.
Oh, tu sais.
Déjà, le fait est que avoir choisi Michael Keaton pour cette histoire de d'acteur qui veut absolument prouver qu'il sait jouer la comédie en allant à Broadway, en mettant vraiment ses tripes sur la table à Broadway, mais il a toujours cette étiquette de oui, il a joué à un super-héros qui s'appelait Birdman dans les années 90 et ça lui colle à la peau, et les critiques sont prêts à l'assassiner, tout le monde est prêt à se foutre de lui juste pour ça, et lui il est complètement paumé là-dedans. Il veut tout ce qu'il veut, c'est réussir à faire une bonne pièce, et il y a tous les vents contraires avec un Edward Norton qui va finir par s'incruster dans la pièce, qui est odieux mais odieux au possible, et qui est génial,
qui est fantastique,
il est toujours incroyable. Et tous les autres acteurs, on a beaucoup parler de Michael Keaton, hein, qui vraiment, alors là pour le coup, l'Oscar de l'interprétation, il aurait dû l'avoir, mais 100 fois.
Ah oui, c'est ce que j'ai à te demander.
Ils ont été nominés à je sais pas combien.
Génialissime dans ce rôle. Tu sens que, bon, il y a une part de vécu, hein. Dans tout ça,
un
mais
peu
que
comme
ce
Mickey
soit
Rourke dans The Wrestler, un peu
ouais, un petit peu, mais tu vois que, enfin, il n'y a pas que lui, quoi. Emma Stone est génial aussi, Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis, pareil, ils sont tous à leur échelle pour les scènes qu'ils ont, vraiment, mais incroyable,
mais y a que
de,
des bons acteurs
de justesse, il
hein,
y a vraiment que des bons acteurs, et c'est fou comme film parce que c'est un plan séquence. De tout le film, un faux plan séquence, hein, un peu à la manière de la corde d'Alfred Hitchcock. C'est un faux plan séquence avec évidemment des moments où bah, il y a un petit écran noir, c'est un peu noir, donc du coup il a pu faire les raccords comme il voulait, mais on est comme dans une pièce de théâtre, vraiment amené de bout en bout dans cette histoire complètement, complètement dingue d'un mec qui veut juste... juste réussir à faire une pièce de Carver comme il veut et bah, je sais pas, allez le voir vraiment quoi, c'est pas 10 euros qui seront perdus, mais alors pas du tout, vous allez passer un moment de folie, c'est très bien filmé, c'est très bien joué, il y a des images fantastiques, il y a une petite BO de jazz avec un... de temps en temps vous allez voir il y a un batteur, un black qui apparaît à la batterie comme ça, vous savez pas d'où il sort et bah, il y a ce petit rythme de batterie qui passe comme ça, c'est complètement fou et c'est, pour moi c'est du jamais vu, enfin c'est pas de la folie incohérente, c'est vraiment un truc qui a un sens quoi, et
c'est drôle.
Et c'est très drôle, ouais. C'est très drôle.
C'est tellement sérieux quand t'en parles.
C'est une comédie,
ouais,
en fait.
Ouais. Ah oui, c'est une comédie.
Oui, parce que la façon dont il en parle, on dirait que c'est très dur, très sombre.
C'est dur aussi.
C'est un drame intense.
Ça peut être vécu comme un drame.
C'est une comédie dramatique.
Ouais, ouais. C'est... Voilà. Mais c'est essentiellement drôle. Il y a beaucoup plus de moments où on va se marrer de, bah, déjà de, des situations que traverse Michael Keaton. Et moi, c'est Edward Norton hein, qui m'a peut-être fait le plus rire dans le film. Mais en tout cas, je le conseille vraiment à... tout le monde, c'est pas volé du tout son Oscar du meilleur film. Et il aurait vraiment dû avoir un Oscar aussi pour l'interprétation, Michael Keaton. Mais bon, après, je n'ai pas vu le film sur la vie de Stephen Hawking, mais je suppose que cet acteur devait bien se débrouiller aussi. Voilà, avant de passer au quiz, on va faire...
C'est injuste parce que quand il pense jouer, incarner Stephen Hawking... C'est ouais. Quand même moins dur.
Oui, enfin c'est moins dur. Je te vois bien le faire. Hein. ça, franchement, là je te trouve vraiment ingrat.
Aucun problème, Bruno.
Non, vraiment n'importe quoi. Non mais là Romain, tu mérites, tu sais quoi ? Tu mérites un bout. Voilà, tu mérites ton bout. Parce que je pense que c'est quand.
J'ai fait un poufi, le contrat est rempli.
Fallait.
Et
faire.
Je vais me tourner vers Julo.
Oui,
parce que Julo, c'est l'heure. Du point concours. Eh oui, attrapez
le
point
concours. Et cette semaine, deux concours. Le premier concours qui dure jusqu'à vendredi et qui concerne donc nos premiums.
Ouais.
Et entre qui permet de gagner des DVD Ninja Turtles.
Donc voilà. Le film de
le dernier
produit
film,
par Michael Bay, pardon. J'allais dire
produit
de,
par
voilà,
Michael
qui
Bay.
Avait surpris,
qui
a surpris Romain. Voilà. Mais que j'ai toujours pas regardé.
Qui s'attendait à une grosse bouse.
Je continue à me battre hein, parce que y a les gens sont très très négatifs au sujet de ce film. Et ben moi, je continue de dire que c'est un bon film Tortue Ninja, une excellente surprise. Alors que j'étais peut-être le plus, en tant que président du fan club des Tortue Ninja,
ouais.
J'étais peut-être celui qui partait avec un a priori le plus négatif sur ce film et j'ai été agréablement surpris. C'est pas parfait, mais bien meilleur que ce que j'imaginais.
Et vous pouvez.
Et il a
gagner...
fait pleurer ma petite sœur d'émotion ce film.
Oh,
parce qu'elle était tellement nostalgique des Tortues Ninja quand elle a vu ça que ça l'a fait pleurer.
Oh.
Et elle a 27 ans, bah, 28, je sais même plus.
Oh là là.
27.
Attends, quel âge ?
Bref,
comment
vous pouvez gagner donc le DVD jusqu'à dimanche minuit.
Donc si vous êtes premium, vous avez jusqu'à dimanche. Si
voilà.
Vous n'êtes pas premium, bah, c'est dommage, c'était il y a deux jours.
C'était il y a deux jours. Désolé pour vous. Mais en même temps, il y a un concours permanent désormais autour de la rubrique
cette
de
transition.
Voilà. Donc le comment s'appelle
Jeux vidéo.
Jeux vidéo, voilà. Mmh. Jeux vidéo. On va faire un concours permanent chaque semaine. Si vous avez bien regardé l'un des deux derniers épisodes, vous pourrez répondre à une petite question pas trop compliquée et gagner des abonnements Gameblog Premium annuels. Voilà, des abonnements d'un an chaque semaine sont à gagner grâce à la rubrique de Joeum et de WeFM. Voilà.
Qui vaut son pesant de cacahuètes.
Ah ouais, c'est.
Si franchement, il faut absolument au moins regarder la dernière de
Sur The Order.
Ouais. Ah ouais, parce que là, il s'est déchaîné.
Il s'est mis en image en plus cette fois.
Très très chouette,
il est très
vraiment.
Bon,
très drôle.
Ouais, il est incroyable ce garçon. Allez,
vous tapez Joe Vidéo dans le moteur de recherche de Gameblog. Voilà.
C'est l'heure maintenant de passer au quiz. Alors accrochez-vous bien à vos micros, tournez-vous, regarde-moi déjà aussi parce qu'on sait jamais, vous pourriez regarder.
Moi, en fait, je ne regarde que ton.
Tu regardes
que ta soundbox depuis tout à l'heure.
Alors attendez, hop, je me place bien. N'oubliez pas, vous criez votre prénom, votre pseudo, et ensuite vous donnez la réponse, et pas avant. Allez, question numéro 1. Kanye West prépare un jeu dans lequel on mènera sa défunte maman à travers les différentes portes du paradis. Ce jeu s'inspire d'une de ses chansons en duo avec un petit jeune qui monte, Paul McCartney. Quel est le titre de cette chanson ?
Je ne sais pas.
Ah là là, Romain ne connaît que ça, je le vois, vous pouvez
mais
le
bon,
voir à sa minute
déconfite. Mais bon, c'est un génie, Kanye West, en tout cas.
Ah, mais moi, je suis admiratif de ce monsieur, même s'il a un ego surdimensionné et qui va faire chier tout le monde pendant
c'est
les.
En tout cas, hein,
qui va faire chier tout le monde pendant
c'est
les remises de prix. Je le trouve assez
facile. En fait, si
puissant.
Tu l'écoutes, tous les prix devraient être mis à Beyoncé.
Bah oui, exactement.
Je pense qu'aux Oscars, il aurait la meilleure interprétation masculine, ça aurait dû être à Beyoncé si t'écoutes Kanye West.
Je vous vois essayer de gagner du temps.
Non, je.
J'ai pas avant les matchs du PSG au des Princes.
J'ai oublié.
Kanye West, faut le dire.
Vous ne voyez pas.
Mon Dieu.
Quel est le nom de cette chanson de Kanye West avec Paul McCartney?
Kanye.
Oui, je dis Kanye, ouais.
Kanye, pas Kenny.
J'ai dit Kanye, qu'est-ce que tu...
Kanye.
Bah oui, c'est ce que je dis. Pourquoi tu me reprends?
Non, ouais. C'était pas pour toi, c'était d'une manière générale.
Ah bon?
Kanye West.
Ok, Kanye West. West. Eh bien, la chanson s'appelait Only One. Dommage pour vous. Numéro 2. Avec un Metascore de 65, The Order 1886 est l'antépénultième nouvelle licence AAA de cette génération de consoles. Il devance quels autres jeux?
Ah, bah il y en a deux, ouais. Ouais. Si c'est l'antépénultième.
Eh oui. Instant Wikipédia aujourd'hui avec Gameblog.
Oui.
Nous vous apprenons le sens
j'en
des
connais
mots.
Un, j'en connais pas deux.
Personne ne voit quelles sont les deux licences.
Si je gagne un demi-point, si j'en donne un sur les deux.
Déjà, je vais jouer la petite musique. Moi, il me faut les deux. Ah oui, hein, c'est difficile. Sur Metacritic, qui est en dessous de The Order? Eh bien, il s'agit...
Juste pour le sport.
C'est Rise.
Moi, ouais, j'aurais dit Rise.
Il y a Rise.
Vous répondez sans donner votre pseudo.
Non, parce que
c'est le temps est fini. Donc on est bien.
Ok, il y a effectivement Rise Son of Rome et le deuxième c'est Knack.
Ah
putain. C'était tellement
ce jeu incroyable et magique.
Exactement. Question numéro 3.
Je l'avais
encore,
oublié.
Encore un jeu incompris. Hein.
Oui.
Un jeu génial incompris.
Quand
oui, j'en doute pas.
Quand
franchement, moi c'est celui qui avait envie d'acheter une PlayStation 4 en lancement.
J'ai besoin de votre attention. Quand sort The. Je le fais mal. Attends. The Assignment, le DLC de The Evil Within.
Le 10 mars.
Romain, le 10 mars.
Eh oui.
Enfoiré, c'est pas juste, non.
Bah, je suis désolé. Je suis désolé, Carole. Il y a des règles.
Je suis désolé, tu t'es fait avoir.
C'est pas vrai, c'est une légende.
T'as pas fait cette quiz avec nous.
Ah oui, mais Carole, il y a des règles.
C'est vrai que c'est dégueulasse.
Ah, mais c'est immonde. Ah, là, c'est immonde.
Je vais t'attendre à la sortie.
Ah, mais là, t'es une ordure. Là, Romain est une ordure, là, faut le dire.
C'est une ordure.
Mais tu as été naïve.
On a fait des plus horribles
que tu m'as fait hier.
Qu'est-ce que je t'ai fait hier?
Avec le truc sur le.
C'était un tweet gentil.
Sur l'intelligence artificielle de Google.
Eh oh.
J'ai dû me bouffer un papier scientifique.
Mais. Bon. Non, mais. Un point. Mais dis donc. Oh, stop! Stop avec la palette! C'est quoi? Bon, ok. Voilà, réunissez-vous. Faites-vous des bisous. Un point pour Romain. Question numéro 4. Quand sort. J'attends que la musique se termine. Quand sort Hotline Miami 2, Wrong Number?
Carole!
Oui?
Bon, je sais pas. Je
Julo.
Oui,
le 10 mars.
Bonne aussi. Réponse de Julo, c'est aussi le 10
Entre
mars.
Entre les braquages DLC de The Evil Within.
Eh oui, tout ça c'est le 10 mars. Un point pour Julo, un point pour Romain. Question numéro 5.
C'est dégueulasse, ça m'énerve.
Bah attends, là je t'ai rien fait là. Oh.
Non, mais c'est lui là, il m'énerve.
Moi j'ai fait ça dans les règles et tout.
Dernière question. L'amiibo doré de Mario, déjà en rupture de stock, était réservé à quelle chaîne de magasins américaine?
Julo.
Oui.
GameStop.
Ah.
Romain.
Oui.
Walmart.
C'est une victoire de Romain pour aujourd'hui, puisque c'est son deuxième point.
Mais c'est pas normal qu'il gagne.
Et si. Victoire de Romain, regardez, petite musique qui va bien. Bravo ça Romain. Tu as été en plus d'un fair
point.
D'un fair play
tout à fait.
Incroyable. Je pense que les gens chez eux vont apprécier toute cette galanterie qui sort de toi, vraiment. Le féminisme au plus haut, à son meilleur niveau, il est là, c'est Romain, qui a volé un point, mais il ne l'a pas volé, hein. Tu as été naïve, ma petite Carole.
Moi, j'ai juste utilisé les règles.
Exactement.
Ouais, mais et la réponse de Carole.
On t'a pas briefé, tu réécoutes le podcast à son début, j'ai dit le pseudo d'abord.
Oui, non, mais d'accord.
Tu sais
mais
quoi, tu sais
quoi,
si t'avais pas fait ça, on serait à égalité tous, on aurait un point chacun.
Vous auriez un point chacun.
On aurait tous gagné, ça aurait été l'école des fans.
Est-ce que je peux donner mon point à.
Trop tard.
Est-ce qu'il y a un système de transmission?
Non, n'hésite pas à te rattraper, tu comprends ça.
Non, je trouve ça bien par rapport à ce qu'elle t'a fait avec l'article sur Google. Fouet, mais arrêtez de toucher à la palette, s'il vous plaît. Bien voilà, c'est ainsi que s'achève, dans une bonne ambiance, vous pouvez le noter.
Ouais, on va s'éclater.
Que s'achève le podcast 331. Merci Julo, merci Carole,
merci
Romain d'y avoir participé. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une autre semaine d'actualité et de jeux décortiqués sur Gameblog. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut, ciao.